Les enjeux internationaux.
Avec vous, Thierry Garcin, bien sûr. Bonjour Thierry.
Bonjour Guillaume Werner. Chloé Asensio, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier, c'était en janvier dernier chez Duno, un ouvrage très intéressant, Travailler avec les Chinois et le sous-titre 8 clés pour réussir. C'est un ouvrage en co-rédaction avec Dominique Rey. Alors, on va enfoncer évidemment une porte ouverte, mais cette porte est large et haute. Le facteur culturel est essentiel dans la vie des entreprises, notamment à l'exportation, a fortiori pour les expatriés, mais pas seulement. Alors, cela est très important pour les stratégies des sociétés, sociétés industrielles ou commerciales, mais aussi pour la compréhension élémentaire des comportements, des attitudes, par exemple lors des négociations. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'ouvrages qui ont paru depuis des années sur la façon de se comporter avec les Chinois, puisque c'est votre objet, et la façon de comprendre aussi le comportement des Chinois à l'inverse. Alors pour le monde chinois, les dirigeants d'entreprise énoncent souvent quelques règles ou constats. La littérature est abondante, mais votre ouvrage est vraiment très, très particulièrement intéressant parce qu'il est à la fois synthétique et en même temps explicatif. Il est analytique avec des exemples. Il est très, très, très commode à lire. Souvent, les dirigeants d'entreprise disent le négociateur chinois n'est pas forcément le responsable de l'issue des négociations. Souvent, ce sont les autorités provinciales qui sont par derrière. Ils disent aussi souvent toute signature de contrat ne met pas un terme aux discussions mais en ouvre d'autres et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un monde, dans le bon sens du terme, extrêmement exotique. Vous êtes sinophone, vous avez vécu en Chine, vous avez travaillé ou travaillez peut-être encore dans le secteur des RH. Alors, quelle logique à l'œuvre précisément ?
Alors, en fait, on a essayé de modéliser avec Dominique des logiques de comportement compréhensibles pour des cerveaux cartésiens. Et donc, forcément, dans cet effort de modélisation, il y a une part de simplification, mais notre modèle est validé vraiment
par l'expérience.
Ça fait 10 ans en fait qu'on l'éprouve dans les entreprises, soit dans des, comme vous le disiez, dans les relations commercial, clients, fournisseurs, partenaires de joint venture, mais aussi beaucoup dans les relations entre collègues, entre la filiale et le siège, et de plus en plus dans des entreprises françaises en France qui ont été rachetées par des entreprises chinoises.
Alors, vous distinguez 4 logiques.
Oui.
Rapidement, c'est très important. Alors, parce que c'est pas France Culture qu'on va dire que tout cela culturellement est fondamental.
Bien sûr. Alors, les 3 premières logiques, en fait, reposent sur le système de valeurs confucéen. Donc, Confucius, c'est un lettré du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, quand on parle de confucianisme, c'est évidemment pas la pensée originelle du maître, mais son instrumentalisation par l'Empire au cours des siècles. En fait, la première logique, c'est le paternalisme hiérarchique. Donc, c'est une vision très codifié de la société avec des rôles, et principalement toutes les relations sont hiérarchiques pour Confucius, et il y a des rapports de réciprocité qui s'opèrent entre le dominant et le dominé, ou le supérieur et l'inférieur. Et cette réciprocité, en fait, c'est protection contre obéissance. Et en fait, ce modèle-là, qui est le modèle de la relation père-fils, va s'appliquer dans toutes les sphères de la société. C'est une grille de lecture du politique, et encore aujourd'hui, c'est aussi une grille de lecture de la relation managériale et aussi de la relation client-fournisseur.
C'est un peu un contrat personnel.
Tout à fait, avec pas de droits, mais uniquement des devoirs, qui repose aussi sur énormément de respect du statut. Voilà. Et en même temps, le paradoxe, c'est que le confucianisme débouche aussi sur la méritocratie, puisque ce sont les Chinois qui ont inventé le système du concours. C'est l'ENA avant l'heure, si vous voulez.
Et du mandarina aussi.
Tout à fait. Et cette idée qu'on réussit par les études, par son effort individuel, et une éthique du travail qui ressemble finalement beaucoup à l'idéologie libérale américaine. Néanmoins, la grande différence avec les sociétés occidentales, c'est que l'Empire chinois a fonctionné sans loi écrite. Et donc, aussi bien il y avait un process pour devenir fonctionnaire, avec des règles et une codification très très stricte. Et autant lorsque le fonctionnaire réussissait son entrée dans la fonction publique et a accédé à un poste de pouvoir, il n'était contraint finalement par aucune règle, aucune loi et aucune jurisprudence. Et du coup, l'expérience des Chinois pendant 2000 ans, c'est une expérience d'arbitraire et de prédation hein, dans la fonction publique. Résultat, ils n'ont en fait aucune confiance dans leur système et ils ont un problème de confiance, on pourrait dire, ils ont un besoin de confiance et du coup un besoin relationnel qui fait que malgré la modernité de la Chine aujourd'hui, en fait c'est une société traditionnelle où on ne peut travailler ensemble que si on se connaît personnellement. Donc ça pose une contrainte très forte aux entreprises occidentales qui sont, elles, dans une culture du contrat où on n'a pas besoin de passer du temps à devenir amis.
Et c'est le résultat qui prime.
Voilà, tout à fait. Et où on peut se reposer finalement sur les contrats. La troisième logique, c'est celle de la face. Alors, c'est vraiment la tarte à la crème pour ceux qui connaissent un peu la Chine, de dire que les Chinois ne veulent pas perdre la face. Mais on sous-estime bien souvent la gravité de cette situation. La perte de face, c'est pas seulement un moment de honte.
Ce n'est pas seulement psychologique.
Oui, c'est plus que ça. C'est une mort sociale. Parce que, en fait, la face, c'est le moi. Et c'est la valeur de l'individu, il la lie dans le regard des autres. Mmh. Et donc, un regard critique, désapprobateur, ou une injonction à reconnaître son tort, ont un effet dévastateur sur la personne. Et c'est le plus souvent ce qui va bloquer dans la communication avec les Occidentaux, qui se rendent pas compte que quand ils font un audit ou quand ils s'acharnent en négociation à faire avancer leur point de vue, en fait, heurte profondément la sensibilité des Chinois et du coup, ça bloque ou ça interrompt ou ça fait tourner en rond la négociation. Et si on n'a pas cette grille de lecture, on trouve ça complètement irrationnel.
Et quatrième logique, alors ?
Quatrième logique, c'est le taoïsme. Alors, le taoïsme précède le confucianisme. Hein, Confucius est taoïste, comme tous les Chinois, d'ailleurs, puisque c'est pas une religion, mais c'est une vision du monde. Et taoïste, ça vient du caractère dao, qui veut dire le chemin, avec cette idée, au fond, que la seule vérité sur laquelle on peut fonder une stratégie, c'est que tout change sans cesse. Et donc, l'idée occidentale qu'on pourrait anticiper, qu'on pourrait contrôler l'incertitude, paraît complètement saugrenue aux Chinois qui savent bien que tout ce qu'on peut faire, petit humain qu'on est, c'est observer le contexte, les évolutions du rapport de force, s'y adapter, être très flexible et être très réactif.
Donc, remise en question continuelle. Alors que nous avons, en Européens ou Américains, une mentalité qu'on dit d'ingénieur. Il faut du résultat.
Oui, et puis aussi, nous, on imagine que on peut prévoir l'avenir finalement. Et du coup, on est très surpris que les Chinois changent beaucoup d'avis, et à raison, parce que fondamentalement, s'ils ont beaucoup d'ambition, bien souvent, ils n'ont pas de stratégie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les étapes pour atteindre cette ambition, et ils vont prendre des décisions au jour le jour, à l'image en fait de la formule de Deng Xiaoping quand on lui a demandé quel est le modèle de réussite, parce que vous avez fait des merveilles, vous avez développé
vous
la Chine.
Vous allez nous parler du chat.
Et non pas du chat, je vais vous parler
de la rivière.
Il a dit en fait, il n'y a pas de modèle, on tâte les pierres pour traverser la rivière.
Mais oui, quand on est au milieu, on fait attention à la pierre de devant avant de regarder la rive d'en face.
Oui, c'est l'expérimentation qui permet d'apprendre. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Chloé Asensio. Je rappelle donc qu'avec Dominique Ray, vous avez publié récemment chez Duno, Travaillé avec les Chinois. C'est un livre très riche et pas seulement lisible par le monde de l'entreprise. Donc merci, franceculture.fr, pour vous réécouter et vous télécharger franceculture.fr.